Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver avec ces quelques petites minutes de retard, mais l'info est présente sur Europe 1, vous le savez, et elle est importante, et elle est pour vous, chers amis, donc il est important que vous soyez informés de la manière dont tourne ce monde. Vous êtes sur votre libre antenne, comme tous les jours, 7 jours sur 7, de 23h à 1h du matin. Et pour nous appeler, vous composez le 3921, petit disque d'accueil, vous faites le 1 et vous tomberez directement sur Julia ou sur Florian. Vous nous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr et puis vous écrivez vos SMS, comme vous le faites nombreuses et nombreux chaque soir, au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, et bien évidemment sur notre groupe Facebook, Yann Moix, Olivier Delacroix, la libre antenne, où vous écrivez en privé à Florian et à Julia, qui vous répondront dans les plus brefs délais. Sans plus tarder, votre libre antenne du mardi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour commencer cette émission, nous accueillons Suzanne au 3921. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir.
Bonsoir. Avez-vous bien dormi, Suzanne ?
Non.
Non ?
Très mal.
Bon. D'où nous appelez-vous ?
De la Provence.
De la Provence, d'accord. Et quel âge avez-vous ?
56 ans.
D'accord. Je vous ai coupé, vous alliez me dire que les nuits sont agitées.
Voilà, j'arrive pas à dormir à 3h du matin. Je suis réveillée, j'arrive pas à manger. Je suis en plein stress.
Que se passe-t-il ? Dites-moi.
Ben, j'ai perdu mon travail.
Oui.
Voilà, je me suis retrouvée avec une évaluation et on m'a appris. Que mon contrat ne sera pas renouvelé. C'est pour cela que je suis depuis quelques temps, un peu comme ça.
Et on vous a donc licencié
Ce n'est pas licencié, mais on m'a fait comprendre que mon contrat ne sera pas renouvelé parce que j'étais sur un poste de quelqu'un qui va revenir à temps partiel.
Oui.
Mais que aussi il y avait à chaque fois... dans les équipes, parce que je travaille en équipe, et qu'il y avait des tensions, plus ou moins, et que ça venait toujours de moi, et qu'il fallait que je fasse un travail sur moi. Et à chaque fois, c'est le même souci, je vous avais déjà appelé, et on me dit qu'il ne faut pas que je sois fermée aussi, de me mettre dans ma bulle, donc je ne sais plus comment... me comporter parce que c'est de la jalousie, toujours pareil.
De votre point de vue, vous, de votre point de vue, vous étiez bien là-bas, vous ne mettiez pas de tension, en fait.
Si, j'ai pas été appréciée tout de suite.
D'accord.
Il y a eu des personnes qui ont été jalouses, des réflexions sur ma façon de travailler, de m'accepter. Donc, du coup, ça a été comme une étiquette, quoi.
D'accord.
Mais après, mon travail, il a été toujours très bien fait. Et en fait, jamais je me rebiffais, ni... Je ne sais pas si c'est du harcèlement, si c'est de la jalousie, enfin, c'est de la malveillance. Et donc, c'est retombé sur moi. Et je pense que... parce que je ne rentre pas dans le moule. Après, la direction m'a dit de ne pas changer. Donc, s'il faut changer pour avoir un travail, pour garder son travail...
Alors, on peut changer, bien évidemment, mais pas, pas jusqu'à, finalement, changer sa propre nature, en fait. Que voilà. Se passait-il exactement ? Dites-moi ce qui se passait. Donnez-moi des situations concrètes de ce qui s'est passé.
Dans les derniers temps, là... une personne, une collègue m'a dit pas plusieurs fois, tu sais, il faut qu'on parle ensemble d'un certain projet, il faut qu'on parle ensemble. Je dis oui, j'ai compris, oui, j'ai répondu gentiment, calmement. Et à un moment donné, elle s'est agacée, elle a tapé dans ses bras, en disant oui, mais de toute façon, on ne peut pas te parler, d'accord, ok. Et le projet que je devais amener moi, avec une autre collègue, une troisième personne, j'ai dit à celle qui m'a parlé comme ça, j'ai dit, bah, écoute, tu y vas. Donc le directeur était un peu déçu parce qu'il m'attendait aussi. Voilà, moi j'ai appelé ensuite, c'était la fin de semaine, donc j'ai appelé le directeur, j'ai parlé de cette situation parce que ça me portait à cœur. Il m'a traité de parano. Et je lui ai dit non, que j'étais pas parano et que j'étais très bien dans ma tête, dans mes bottes. Et voilà, donc c'était comme c'était la personne, il appréciait beaucoup. Ben, je pense qu'ils ont gagné et ils sont arrivés à. Parce qu'il m'a dit, il me disait toujours, ça me pose question pour renouveler ton contrat.
Oui.
Voilà, donc je pense que ça doit être une histoire de brillance ou de, je sais pas.
De brillance, c'est-à-dire
je veux dire que la personne est mieux vue que moi et voilà, et ça marche comme ça, quoi.
D'accord.
C'est celle qui aura le dernier mot, qui... Voilà, et puis etc., etc. Enfin, mais plein de choses aussi. Après, une autre personne aussi qui m'a manqué de respect. Donc moi, tout ça, je l'ai évoqué à l'évaluation. Et donc voilà, depuis lundi, j'ai appris ça. Ben, c'est pas très très bien.
En fait, s'il ne renouvelle pas votre contrat, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous envisager, en fait?
Ce que je leur ai dit, pour remonter l'honneur, j'ai dit que j'étais sollicitée, c'est ce qui est vrai, et que j'avais des qualités, des compétences,
oui,
des valeurs professionnelles, et qu'on ne se changeait pas. Et là, normalement, je dis que j'ai un entretien, donc, mais mon contrat se termine en novembre, donc il faut que je retourne. J'appréhende aussi de voir ses collègues. Alors je me suis dit peut-être que j'aurais qu'à leur dire que j'ai trouvé quelque chose, et comme ça au moins peut-être que ça peut être un retour sur les quelques années que j'ai fait.
D'accord. Mais vous semblez attristé, comme si vous auriez pu rattraper la situation ou faire quelque chose. J'entends un peu de regret dans votre voix.
Ben, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que j'en parle à DRH, est-ce que...
Dans quel type d'activité était-ce?
Dans la petite enfance.
D'accord.
Milieu de femmes.
Oui, donc compliqué de votre point de vue.
Voilà, jalousie. Moi, je pense beaucoup de jalousie parce que par rapport à ma personnalité, ma façon d'être, ma façon de travailler, de bouger, de tout. Mais on ne se change pas. Donc.
Alors, vous avez dit ça plusieurs fois. On ne se change, on ne change pas. On vous demandait de changer dans quel sens exactement, Suzanne?
Changer dans le sens où peut-être que la communication, mais je vais pas me forcer à parler avec des gens qui n'ont... Moi, je leur ai dit, j'ai une éducation, j'ai un comportement, des gens qui m'intéressent que pour le travail.
Oui.
Donc, je sais pas, ils me disaient pour plus tard dans une autre... notre établissement, c'est pour toi, c'est pour... Mais ça m'arrive et je leur ai dit depuis 26 ans que je fais ce travail. Donc j'ai subi et j'ai donné des exemples. Quand une fois j'étais partie en maladie, je suis revenue, on m'a dit « Ah ben, tu nous as pas manqué, hein, on était bien sans toi. » Voilà.
Ce qui est toujours sympathique.
Ouais. Voilà, très agréable. Donc, je connais toutes ces tensions, je connais tout ce genre de... Mais chaque personne est unique et il y a des façons de dire, des façons de faire et de s'adresser aux gens. Et moi, je suis dans ça et je suis bienveillante. Je n'ai pas ce genre de comportement ni de jalousie. Mmh. Et voilà, c'est parce que je n'entre pas dans le moule des hypocrites, peut-être, des personnes qui sont... Je ne sais pas. Voilà, donc c'est pour ça que ça me chagrine, parce que...
Oui, parce que vous sentez que vous aviez votre place là-bas, en fait.
Oui, parce que c'est une ancienne direction qui est partie, qui m'avait dit que j'avais un grand potentiel. Donc, on m'avait dit, en fait, c'est une assez grande boîte, donc il n'y aurait pas de raison, à part de faire une grosse faute professionnelle. Après, je suis sur un contrat, mais quand même, ils ont appuyé là-dessus. Ils recherchent beaucoup de personnes, et ils avaient plein de TV. Et
oui, donc, ils ne se sont pas embarrassés, vous posiez problème, et au revoir,
voilà.
Suzanne.
Voilà.
Vous savez,
m'a dit mon médecin.
Ouais, je vais vous dire,
maintenant,
Suzanne,
dans le monde du travail. Oui.
Il ne faut pas insister. Il ne faut pas que vous rendiez malade avec ça. Ça n'était pas le bon endroit. Ça n'était pas le bon moment. Ça n'était pas le bon milieu. Ce ne sont pas les bonnes personnes. Loin de les critiquer, hein, mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et quand c'est comme ça, je pense que il faut passer à autre chose. Vous êtes dans la petite enfance. En Provence, m'avez-vous dit, il y a d'autres postes à pourvoir. Il y a d'autres choses. Il faut que vous vous mettiez en quête d'autres choses.
Bah, c'est-à-dire que c'est mon âge qui me pose... Alors que pas du tout, parce que j'ai une très bonne expérience.
Oui, puis dans la petite enfance, vous savez, y a quand même... vous pouvez trouver encore. Hein.
Oui, mais à mon âge, je me dis, mais après, c'est vrai, oui, on me dit, vous avez une super expérience, une très bonne expérience. J'adore mon métier, les enfants, les parents, je fais mon métier. Et quand je vois des personnes comme ça, certaines, elles sont là pour avoir la place, pour être titularisées, quoi.
Hein. Oui.
Et donc là, elles arrivent, elles disent, ah ben oui, moi j'aimerais bien, j'ai appelé, nanana. Elles sont pas plus que moi, donc moi j'ai jamais rien dit, j'ai jamais rien demandé, mais j'étais peut-être un peu gênante, mais bon, maintenant tout ça est passé, et il faut que j'aille de l'avant, mais ça m'affecte parce que...
Bien sûr, je comprends.
C'est dur à digérer, quoi, voilà. Mais oui, comme vous dites.
Mais il faut que vous essayiez de repartir de plus belle, vous voyez, il faut tenter nouvelle aventure, bien évidemment. C'est compliqué quand on a subi un échec comme ça, mais moi, je pense qu'il ne faut pas insister, vous voyez ? Je pense qu'il faut que vous alliez sur autre chose.
Parce qu'il y avait aussi un souci de personnes qui... Bon, déjà, elles se sont prises... C'est une équipe qui se connaissait déjà assez longtemps. Et un jour, ça a explosé. Elles ont crié devant les enfants. J'ai géré les enfants. Pas que moi, une autre aussi. Mais c'était assez violent, quoi. Même une autre collègue. C'est au fond, ça tape. Et j'ai dit à la direction, moi, la chose, c'est que s'il arrive, parce qu'il y avait un manque un petit peu, je ne dis pas qu'elles ne sont pas professionnelles, mais ce jour-là, ça a été vraiment... Et j'ai dit, s'il y a quelque chose qui arrivait, moi, le souci que ça me pose à moi, c'est que je ne veux plus professer à cause que s'il y avait quelque chose de grave qui arrivait. Et il m'a dit que je jugeais et que j'avais pas, je pensais que mes collègues n'étaient pas professionnels. Et quand je vois comment elles travaillent, voilà, je ne dis pas qu'il y a un risque, mais il n'y a pas... Enfin, par rapport à moi, je me suis peut-être un peu comparée. J'étais toujours très, très, très vigilante. Et voilà.
Vous aviez beau être très, très vigilante et ça n'a pas fonctionné. Donc, comme je vous dis, il faut maintenant que vous vous tourniez vers l'avenir. Et ne pas vous dire mon âge. Vous avez eu l'énergie de trouver cet emploi, de l'obtenir. Il faut maintenant que vous disiez « je suis capable ». Vous avez 56 ans, ça n'est pas terminé à 56 ans. Surtout dans le milieu de la petite enfance. Vous voyez, vous me diriez que c'est dans le milieu de la vente, de la finance, dans la banque. Oui. Vous voyez, des milieux où c'est sûr qu'on affronte aujourd'hui, lorsqu'on a plus de 50 ans, une problématique d'âge. Dans la petite enfance, les femmes qui ont une maturité et une expérience, en tout cas, vous pouvez intéresser des employeurs potentiels.
Oui,
j'en suis
oui,
certain.
Je veux remobiliser mon énergie parce que les enfants me manquent et j'aime beaucoup la psychologie d'enfants aussi.
C'est pour ça que ça doit vous motiver, Suzanne. Ça doit vous motiver. Vous motiver à tout de suite vous mettre vraiment en marche et en quête d'un nouveau poste. Parce que si vous restez à penser à toutes ces choses-là, finalement, c'est ça qui empoisonne. C'est ça qui vous empoisonne, c'est
oui,
ça
c'est
qui
toxique.
Vous fatigue.
Oui.
Alors que si vous vous mettez dans une énergie, ça n'était pas pour moi là, je n'étais pas là. Qui n'était pas compatible avec qui, finalement, maintenant, j'ai envie de vous dire, peu importe. La situation, il faut que vous l'assumiez aujourd'hui parce que la réalité, votre réalité, c'est que ce contrat n'a pas été renouvelé et qu'il faut que vous vous tourniez vers autre chose.
Oui, mais ce n'est pas professionnellement parce que j'ai toujours fait mon travail. J'ai aucune
faute professionnelle. Oui, mais j'ai bien compris. Mais vous voyez, la réalité, c'est qu'en face, ceux qui commandent vous ont dit « stop, on arrête ce contrat ». Et malheureusement, pour vous, ce sont ces personnes-là qui ont le pouvoir.
Mais parce qu'ils sont, ils veulent pas, il est passé directeur et ils n'ont pas envie de s'embêter. Ils ont eu des remontées sur moi, mais j'avais envie de savoir quelles remontées. Mais bon, je pense qu'il faut tourner la page. Je l'ai eu au téléphone et je lui dis, parce que je suis en maladie. C'est parce que par rapport à ce qu'on m'a annoncé, ils m'ont annoncé et j'ai dit, pas que ça aussi, parce que j'ai des douleurs et je ne suis pas très bien. Et je lui ai dit, de toute façon, je ne rentre pas dans le moule. Et il n'a pas répondu. Voilà. Donc, quelque part, il m'a traité de parano, ça ne se fait pas non plus.
On va marquer une petite pause, Suzanne.
Oui.
Vous restez avec moi ?
Oui.
À tout de suite.
Oui, bien sûr.
Il est minuit 29 sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne. Vous pouvez composer le 39-21. Nous vous attendons, chers amis. Mais Suzanne, vous vous sentez capable là, de vous tourner maintenant vers l'avenir et d'entamer un nouveau chemin ?
Oui, j'ai un entretien jeudi.
Ah ben, vous voyez.
Donc,
déjà.
Oui.
Bon.
Oui, mais... Je ne serai pas dans ma région, j'ai envie de partir, donc ça tombe bien. Enfin, quelque part, il y a des choses qui s'annoncent aussi dans le sens où je voulais partir de là où je suis.
Bah écoutez, vous nous tiendrez au courant, j'espère, que vous nous direz comment s'est passé cet entretien. Et on croise les doigts pour vous. Merci en tout cas, Suzanne, pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, on vous souhaite plein de courage surtout. N'oubliez pas.
Oui. Hein, merci beaucoup.
Ne lâchez rien. On vous embrasse.
Merci.
Au revoir.
Merci Olivier. Bonne soirée.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
23h30 sur Europe et on accueille Christopher. Au 39-21. Bonsoir Christopher.
Bonsoir Olivier.
Ça va ?
Ça va et vous ?
Très bien. D'où nous appelez-vous Christopher ?
De la Sarthe, Le Mans, près de Paris, pas très loin, 2 heures de Paris.
Oui, je vois très bien. Le Perche ?
Oui, c'est ça, c'est un peu en dessous. Ouais.
Un petit peu
ça.
En dessous, d'accord.
Ouais.
Nogent-le-Rotrou, c'est loin de chez vous ?
Une petite heure, oui, c'est
petite
pas très très loin,
d'accord.
Mais ouais, c'est ça.
Bon. On fait un peu de géographie.
Oui, c'est ça.
Quel âge avez-vous, Christopher ?
35 ans.
D'accord. De quoi allez-vous nous parler ?
Eh ben, en fait, je souhaitais témoigner en fait, de mon histoire passée que j'ai vécue avec mon ex-femme, où j'ai subi, on va dire, une injustice ou une erreur judiciaire qui sont encore en cours, en fait.
D'accord. Alors, que s'est-il passé ?
Le problème, c'est que je sais pas trop par quoi commencer, mais en fait, ce que je voulais évoquer à l'antenne pour que ça pouvait aider d'autres personnes. En fait, bon, moi, je me suis marié avec une femme il y a quelques années de ça, maintenant, il y a bientôt 10 ans. Et c'était très compliqué. Le démarrage de notre relation était très idyllique, etc. Vraiment, on va dire, les 6 premiers mois très idylliques. Et au fil du temps, des formes de perversion sont apparues. Je ne me suis pas rendu compte de tout ça sur le moment. Donc, tout a été très vite. On a acheté une maison ensemble. On a fait un mariage, comment dire, un vrai conte de fées qui a coûté assez cher. Et au fur et à mesure du temps, de la relation, ça a été très rapide. Le visage de mon ex-femme a complètement changé, si l'on peut dire. Et donc, ça partait en cacahuète. Et au fur et à mesure du temps, on a été voir un psy. J'ai essayé de faire des choses assez simples, mais c'est assez compliqué, en fait. Mais en résumé, si vous voulez, elle a porté plainte contre moi pour coups et blessures, pour obtenir jouissance de notre maison que j'avais construite. Et aujourd'hui, 10 ans après, je viens seulement d'être divorcé il y a 2 ans, 3 ans, pardon. Et aujourd'hui, madame vit encore dans le bien, quoi. Est-ce que je
D'accord.
voulais. Voilà. Donc, je sais pas quoi dire de plus, mais.
Vous allez m'expliquer ce qu'elle raconte surtout. Pourquoi, de quoi vous accuse-t-elle de violence?
Oui, c'est ça. Alors, en fait, oui, donc, on a eu la procédure de divorce qui a été lancée. Donc, elle s'est appuyée de la plainte qu'elle avait déposée contre moi pour coups et blessures.
Oui.
Donc, il a été très compliqué pour moi de me blanchir parce que elle est arrivée quand même à la police avec des bleus, des faux bleus, du coup, maintenant je le sais, mais des bleus, du moins. Et ça a été très compliqué de prouver mon innocence parce que même ce qui était compliqué, voilà, c'est que dès que vous êtes à cette époque-là, maintenant je sais que ça bouge beaucoup, mais c'était. Voilà, dès que j'étais chez la police, je sentais bien que c'était moi qui étais mis en porte-à-faux dès le départ, quoi. Maintenant, sa sœur avec qui je suis encore en relation aujourd'hui, à qui j'entends très bien, avait vu sa sœur à l'époque, 2 jours après que soi-disant je l'ai battue et elle n'avait aucun bleu. Notre psychologue de couple qui l'a vue même pas 2 jours après, c'est pareil, a attesté qu'elle l'avait vue sans bleu. Et pour autant, pour le premier rendu de la police, m'a condamné à suivre une semaine de suivi psychologique, quoi. Donc, j'avais pas assez d'éléments pour prouver mon innocence parce que madame était quand même arrivée avec des bleus à la police, au commissariat.
D'accord. Comment vous vous entendiez avec cette femme, en fait? Comment ça se passait entre vous?
Alors, oui, donc au début, c'était très très bien. Après, je me suis pas. Voilà. Donc, après, il y a eu des formes de. Ah, maintenant que je peux mettre des termes dessus, de perversion, de manipulation, etc. C'est-à-dire qu'il y avait des. Je sais pas comment expliquer, mais. C'est-à-dire que, si vous voulez, même quand on était avec des amis ou de la famille, elle était sans cesse en train de me rabaisser, de façon directe ou indirecte. Elle pouvait m'obliger à rester dehors, en dehors de notre maison, en fermant la porte de la maison à clé. Et à cette époque-là, ça me choquait pas du tout. C'est là où j'ai du mal, encore aujourd'hui, à expliquer certaines choses, mais. Il y avait une forme de soumission gentille qui se faisait progressivement, si vous voulez, qui arrivait petit à petit au cours des années. Et à un moment donné, quand j'ai voulu me réveiller et me dire que ce n'était pas du tout acceptable, c'est là où ça a commencé à partir, où c'était compliqué en fait, vis-à-vis d'elle, et que on est rentré en confrontation et où on a dû aller voir, où je lui ai demandé d'aller voir un psy de couple, parce qu'on pouvait pas durer, ça pouvait pas continuer comme ça, quoi. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en train de me perdre et qu'elle ne pouvait plus me contrôler.
Oui.
Et c'est à partir de là que j'ai envie de dire que son schéma s'est mis en place. Voilà, vous avez vraiment voulu m'écarter, m'évincer en fait de sa vie, tout en gardant tout ce qu'on avait construit, tout ce que j'avais construit pour elle, quoi.
D'accord.
C'est pas évident, parce que je vous avoue que c'était. Ma compagne avec qui je suis actuellement depuis quelques années, on en parle beaucoup, ça nous prend beaucoup de temps et beaucoup de procédures. Aujourd'hui, je suis encore en justice, hein, contre elle, parce que du coup, elle est toujours dans le logement.
Elle est toujours dans le logement. Et quel impact ça a eu sur votre vie à vous, matériellement parlant?
Alors moi, déjà, je n'ai pas pu récupérer mes biens propres que j'avais dans mon logement à l'époque. C'est comme j'ai été
Oui.
mis vraiment dehors parce que elle avait porté plainte contre moi pour coups et blessures. Lors du premier jugement, le juge a vraiment tranché très rapidement en ma défaveur. C'est-à-dire que voilà, je devais partir, j'ai pas eu le temps de récupérer mes biens. Donc suite à ça, j'ai été blanchi au bout de 2 ans, mais la procédure de divorce était toujours en cours. Et donc là, après, une fois que vous êtes parti de chez vous, il est difficile, voire impossible, de revenir chez vous, quoi, sans la volonté de la personne qui est dans la maison. Donc, comme elle ne veut faire aucun effort et qu'elle fait tout pour bloquer la situation, je n'ai jamais pu récupérer mes biens mobiliers. Elle continue à jouer de ça de toute façon aujourd'hui. Je ne les ai toujours pas récupérés 8 ans après. Donc, je pense que de toute façon, maintenant, ils sont morts. Et elle continue, si vous voulez. Ce qui est embêtant, c'est que voilà, j'ai été blanchi de cette procédure, bien entendu. Bah, blanchi, encore que c'est même pas. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est que j'étais. À mon sens, on m'a accusé de coups et blessures et il a été normalement prouvé que je n'avais rien fait. Mais j'ai pas de documents officiels qui me disent que je suis blanchi. En fait, ils ont juste clôturé le dossier par manquement de preuves et de pièces, quoi.
Oui,
je trouve ça vraiment très dommage, quoi.
Donc, vous avez été lésé dans ce jugement, si je comprends bien.
Bah, lésé, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je m'en rends plus en plus compte. Quand j'avais été, voilà, on va dire, plus condamné, plus de pas de casier, etc., j'ai trouvé ça déjà très bien. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, elle porte plainte contre moi. Quelqu'un peut, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, hein, mais quelqu'un peut porter plainte contre quelqu'un d'autre. Et il ne se passe rien pour lui si c'est là pour des coups et blessures. Elle n'a eu aucune remontrance, aucune amende, aucune condamnation, quoi. Et en plus, quand vous mentez, etc., c'est ça que je trouve aberrant, quoi.
Ouais. C'est vous qui prenez alors qu'il n'y a pas de preuves évidentes. Donc, vous le vivez comme une profonde injustice, ça.
Bah exactement. C'est exactement ça. Je trouve ça vraiment désolant de la part de la justice. Et, après, je comprends. Je sais très bien que les juges, etc., sont complètement débordés et que c'est compliqué pour tout le monde. Mais je trouve ça. Voilà, j'ai l'impression d'être lésé et que quand moi, par contre, derrière, je porte plainte pour diffamation, parce que du coup. Suite à ça, c'est des années après que j'ai découvert la vérité, que j'ai su la vérité, qu'elle s'était faite maquiller par sa mère pour aller aider, pour avoir des attestations de son médecin pour qu'il avait attesté en plus. En fait, c'est là où c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal à en parler avec précision parce que il y a beaucoup de choses qui se croisent en fait. Il y a des gens qui ont attesté pour elle sans l'avoir jamais vue avec ses bleus, etc. Et je l'ai appris des années après. Et même moi, quand je porte plainte pour diffamation. J'ai porté plainte pour diffamation en 2019, on est en 2022 et j'ai toujours pas de dossier, quoi. La clôturation du dossier.
Vous avez un emploi là ?
Alors j'avais un emploi à l'époque, donc en plus heureusement à l'époque je gagnais on va dire suffisamment ma vie pour pouvoir payer tout ce que j'avais payé, aussi bien les avocats que les notaires, que les huissiers, etc. Et le crédit, parce que du coup même si je ne suis plus dans la maison, je paye pour moitié mon crédit. Et aujourd'hui, la boîte pour qui je travaillais a coulé il y a 2 ans maintenant.
Oui.
Et j'ai retrouvé un nouveau travail là récemment. C'était voilà, mais c'est j'ai plus les mêmes revenus. Je suis obligé de vivre autrement, de faire différemment.
Où est-ce que vous vivez en ce moment ?
Là, on vit dans un van en fait avec ma compagne. On a acheté un van. On s'octroyait, on va dire une année sabbatique pour partir, pour vraiment se vider la tête, etc.
Oui. Oui.
Et voilà. Et aujourd'hui, on est revenu, mais du coup, on vit dans notre van, quoi.
Vous vivez tous les deux dans votre van.
C'est ça, notre van, mais qui est garé chez nos beaux-parents, mais on vit dans notre van, quoi.
Ce qui doit être très compliqué.
Bah, ce qui est compliqué, c'est surtout qu'on pourrait éventuellement essayer d'avancer, mais le problème, c'est que comme j'ai mon crédit à payer sur le logement que j'ai actuellement avec mon ex-femme, je ne peux rien emprunter, quoi. Je suis complètement bloqué financièrement.
Oui. Finalement, vous aimeriez que la justice se prononce. C'est-à-dire que même si elle a classé votre dossier, vous aimeriez pouvoir faire appel de cette décision.
J'aimerais pouvoir déjà faire appel de la décision de la diffamation, parce que je crois, en ayant rappelé le tribunal à plusieurs reprises, que mon dossier en fait a été classé sans suite. Et j'aimerais pouvoir au moins refaire appel de ce dossier, mais déjà il faut attendre très longtemps pour avoir les conclusions. Et aussi dire en fait et communiquer à la justice aujourd'hui qu'il y a une telle lenteur, et je leur en veux sans leur en vouloir, hein, mais il y a une telle lenteur administrative et judiciaire que quand vous êtes vous en porte-à-faux et que vous êtes vous condamné à devoir vivre en dehors, que vous êtes bloqué avec une maison, un crédit et des injustices,
oui.
À part attendre, on ne peut rien faire. Ça fait 8 ans que j'attends et il se passe jamais rien, quoi. Vous soyez innocent, victime ou pas.
Ça n'avance pas.
Non, ça n'avance pas.
Ce qui est quand même fabuleux, je trouve.
Oui, c'est ça, c'est un peu.
C'est quand même incroyable. Enfin, je dis ça parce que il y a un truc qui est invariable. Ce sont les impôts qu'on paye chaque année. Non, non, mais ça peut nous faire ricaner. Mais finalement, là, on n'a pas de retard là-dessus.
Non, et, voilà, c'est, oui, voilà.
Il faut surtout pas avoir.
Un bon exemple, Olivier, et,
bah oui, mais c'est un bon exemple. Ça veut dire que quand on veut mettre en place un système fort, huilé, ça marche. Parce que c'est pas évident tout ça en plus. Hein. C'est compliqué de remplir ses feuilles d'impôt et tout ça pour tout le monde.
Bien sûr.
Et malgré tout, ça, c'est très huilé. Donc, si vous voulez, on est une communauté. On vit en société. Nous, les citoyens, on accepte, et c'est normal, de payer nos impôts parce que cette société démocratique qui nous fournit tout un tas d'avantages. Hein, je parle de l'école gratuite, je parle de l'hôpital, en tout cas, les soins gratuits, la santé, et tout un tas de choses qui nous permettent voilà, de vivre dans un pays où il devrait faire bon vivre. Et simplement, depuis des années, la justice, c'est... Enfin, voilà, le système s'est grippé. Il y a des embouteillages de dossiers, les juges croulent sous les dossiers. Le système judiciaire croule sous les dossiers.
C'est ça.
Et j'ai l'impression que ben, on n'entend pas. Alors là, il y a eu une réforme du système judiciaire pour la justice des mineurs.
Oui, c'est possible.
Et selon les échos que j'en ai, ça fonctionne bien. Pourquoi ne pas... Enfin, je trouve ça très important pour que les gens se sentent... les citoyens se sentent accompagnés et respectés, bah, que la justice puisse traiter des dossiers. Alors là, on parle de diffamation, mais parfois on parle de viol, vous voyez ?
Oui, c'est ça.
On parle
c'est
de violences qui sont traitées 3 ans après. Enfin, 3 ans après, c'est... Et puis, il peut se passer tellement de choses en 3 ans que finalement, même le sujet même de la plainte, la situation au moment X où on porte plainte, où il y a vraiment un truc qui ne va pas, en 3 ans, tout ça peut évoluer.
Bah, tout peut évoluer, la mentalité de la personne, les conséquences,
voilà,
etc. Donc,
voilà. Donc, malheureusement, vous nous expliquez ce soir, Christopher, que vous êtes dans un cul-de-sac, en fait.
C'est ça. Voilà. Ah, c'est
et que vous avez 35 ans. Vous avez 35 ans, moi, c'est ça qui me... Et que, pour l'instant, votre vie, elle est à l'arrêt, parce que, bah, au final, on vous a accusé de violence, sans preuve, et que, finalement, c'est la parole de madame qui a pesé plus lourd que la vôtre. Vu qu'il n'y avait pas de preuve conséquente, et c'est vous qui êtes à l'arrêt.
Ah, c'est exactement ça.
Bah oui. Ouais, ouais.
C'est ça,
exactement
c'est ce que
ça. C'est
vraiment de témoigner par rapport à ça, de dire que les gens qui peuvent, je pense que je suis pas le seul dans ce cas de figure là, et que il faut vraiment être soutenu par ses proches, sa famille, etc. Parce que sinon, ça peut vraiment devenir un enfer, je pense.
Ouais, vous n'êtes pas loin de l'enfer. Heureusement que vous êtes entouré, Christopher. Heureusement.
C'est ça.
On vous souhaite bon courage, en tout cas, n'hésitez pas à tenir au courant de l'évolution. Merci hein, pour votre témoignage. C'est important d'entendre des jeunes gens comme vous témoigner des difficultés comme ça, voilà, d'une épreuve qui se transforme en une vraie galère pour vous et compliquée. Et cette maison, dernière question, maison que vous aviez construite tous les deux, la moitié vous appartient ?
Oui, tout à fait, oui.
Et ça, c'est pareil, ça ne bouge pas ?
Non, ça ne bouge pas.
Elle ne vous a pas payé la moitié ?
Bah, c'est en cours. C'est-à-dire que ça fait 2 ans maintenant que c'est en cours, donc c'est pareil. Ça traîne, comme madame veut rester le plus longtemps dedans possible, etc., ça traîne en longueur.
D'accord.
Donc tous les moyens sont bons pour faire retarder les procédures, bloquer les procédures, et c'est ce qui bloque depuis ça fait maintenant 8 ans, donc 6 ans pour divorcer, on est loin d'une procédure classique d'un divorce qui se passe bien.
Oui, ça c'est, on est loin. Une procédure
et
classique.
Du coup, 2 ans pour l'instant pour démarrer seulement la séparation des biens. Donc, on en a encore pour quelques mois, voire quelques années. Quoi. Mm-hmm.
Mais écoutez, je vous souhaite plein de courage en tout cas.
Et, merci beaucoup et bonne continuation.
Vraiment, j'espère que vous allez y arriver et que vous allez en sortir.
Ouais, bah merci beaucoup en tout cas.
Portez-vous bien et tenez-nous au courant surtout, d'accord ?
Ça marche.
Au revoir.
Bonne soirée.
23h47 sur Europe et on accueille Sarah maintenant au 3921. Bonsoir Sarah.
Oui, bonsoir Olivier, bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir, d'où nous appelez-vous Sarah ?
Alors, je vous appelle de Paris.
De Paris, d'accord. Et quel âge avez-vous ?
J'ai 43 ans.
D'accord, de quoi voulez-vous nous parler Sarah ?
Alors, je veux aujourd'hui vous parler, témoigner en fait sur le sujet tabou de l'inceste, voilà, de mes deux jeunes enfants et du placement abusif, voilà, par les services sociaux suite à, voilà.
Suite à quoi ?
Alors, en fait, la parole des enfants victimes, voilà, de violences sexuelles, elle est niée. Et voilà, aujourd'hui, ils se retrouvent placés depuis 3 longues années et privés de tout lien avec leur mère.
D'accord. Il faudrait que vous me racontiez un petit peu, parce que là, il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. Oui. Vos enfants ont été donc victimes d'agressions incestuelles, visiblement.
Oui, oui.
De la part du père, d'un grand-père, comment c'est ?
Grand-père et grand-mère, oui.
Grand-père et grand-mère, d'accord. Dans quelles circonstances vous avez découvert ça ?
J'ai toujours cherché à comprendre. Mes enfants, tous les deux, très jeunes, avaient des différents symptômes, des manifestations, des crises, un mal-être. Donc, à chaque fois qu'il y avait un symptôme, je consultais le médecin et après, ils ont fini par être suivis par une psychologue, chacun, pour comprendre ce qu'ils avaient. Au tout début, pour mon fils, ça a été très bruyant. Donc, il a consulté à l'hôpital. Il a été posé un diagnostic de TDAH et de syndrome Gilles de la Tourette.
Oui.
Et pour ma fille, un retard psychomoteur inexpliqué. Ainsi qu'après, elle a eu des saignements vaginaux. La médecin a pensé à une puberté précoce. Pareil, on a été à l'hôpital, elle a fait tous les examens, elle n'avait pas de puberté précoce. Et il y a 4 ans, aujourd'hui, à l'âge de 6 et 7 ans, mes deux enfants m'ont révélé des agressions, des abus sexuels incestueux. Voilà.
Dans quelles circonstances vous ont-ils révélé ça ?
Alors, dans quelles circonstances
Quel âge avait votre fille ?
Ma fille avait 6 ans. Alors, elle est revenue de chez ses grands-parents et elle ne mangeait plus que liquide, en fait. Voilà, elle n'arrivait plus à manger, elle a fortement maigri. C'était l'été, on est parti en vacances et ça ne s'arrangeait pas avec le temps.
Oui.
Je me posais beaucoup de questions. Mais son frère avait déjà des troubles. Lui, il était traité, suivi. Et là, quand la situation est devenue catastrophique, ça veut dire que gérer les deux enfants qui explosaient dans tous les sens, c'était pas plus possible. Donc, j'ai appelé l'hôpital pour dire « ma fille, voilà, il y a ça qui se passe, je comprends pas ». Et un jour, on m'a donné une piste. On m'a dit « est-ce qu'elle n'aurait pas… » Voilà, on m'a posé la question « mais votre fille, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose que vous ne sauriez pas ?» Donc, j'ai questionné les enfants s'ils n'avaient pas un secret. Alors, un secret avec moi, un secret avec leur tata, leur oncle, leur père, voilà. Et quand je suis arrivée au grand-père, ça a bloqué.
D'accord.
Donc, j'ai dit à ma fille, c'était le soir, je lui ai dit, demain, tu me feras le dessin du secret avec papy. Voilà.
D'accord, ok.
Et donc, elle est partie dormir. Et après, j'ai posé les mêmes questions à mon fils. Et là, pareil. Lui me dit, oui, papy, il dit qu'il va arrêter, mais il recommence toujours. Et puis, mamie aussi, mais je ne comprenais pas, en fait. Et là, je lui dis, j'étais troublée. Le lendemain, mon fils a mimé il est arrivé tout nu, il a mimé en fait toutes les agressions sexuelles. Et il s'est mis en théâtre en fait. C'est comme ça qu'il a voulu me parler. Et ma fille, au moment, il n'a pas pu aller à l'école le lendemain, c'était trop compliqué. Voilà. Et ma fille, pendant qu'elle était à l'école, après, elle m'a fait des dessins. Et au moment où elle a joué au docteur, elle a commencé à se masturber. Voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça.
Oui.
Donc, à ce moment-là, les deux enfants ont décompensé. Ils ne voulaient plus rester là où on habitait. Effectivement, les agresseurs habitent à 800 mètres. Hein. J'ai appelé l'hôpital. Ils ont été hospitalisés tous les deux. Et à l'hôpital, oui, dans un grand hôpital parisien. Et dans le compte-rendu, pour mon fils, ils ont annulé le précédent diagnostic de TDAH et de syndrome Gilles de la Tourette.
Oui.
Et ils ont conclu à un trouble du comportement et suspicion d'abus sexuel. Et pour ma fille, trouble de l'oralité et suspicion d'abus sexuel.
Là, on parle de rapports médicaux légaux, en fait. D'accord.
Oui, okay. L'hôpital Robert Debré, oui, pédiatre.
Qui est un hôpital le plus sérieux que je connaisse, en plus, sur ce type de problématique. C'est un hôpital, vous qui nous écoutez en province, qui est spécialisé dans le soin des enfants, vraiment. Donc, tout de même, des accusations très lourdes à l'encontre des grands-parents. Que faites-vous à partir de ce moment-là?
Alors, à partir de ce moment-là, je demande à l'hôpital de faire le signalement, ou je ne sais pas, oui, les procédures. Les enfants sont convoqués, nous aussi. C'est la Brigade des mineurs de Paris, voilà, qui fait l'enquête. Sauf qu'à ce moment-là, c'est... comment expliquer? Si je puis me permettre, c'est que la famille, c'est des policiers aussi. Donc, c'est un petit peu... voilà. Ça ne s'est pas bien passé pour les enfants, en fait.
C'est-à-dire ?
Donc ils ont eu un petit premier placement parce que ça a été, ils ont été placés d'urgence,
oui.
Là, pour essayer d'éclaircir les choses. On nous les a rendus, voilà, avec le papa, voilà, ils n'ont rien. On a eu une enquête de famille, comment ils appellent ça, une expertise psychiatrique de toute la famille. Nos rapports étaient normaux. Voilà, ça venait pas des fallait écarter les parents, évidemment, ou une complicité ou des choses comme ça. Ça s'est bien passé. On a eu une MIGE, Donc, c'est l'enquête au niveau de la justice la plus approfondie auprès de parents. Donc, on détaille tout, votre vie, leurs activités. Ils allaient tous les deux à l'école de musique. Voilà, mon fils faisait des spectacles tous les ans, modern jazz. Ma fille faisait de la gym. Voilà, tout était très, très bien. Ils allaient en école privée, catholique. Voilà, il n'y avait rien du tout qui n'allait pas. Les parents étaient très bien. Ensuite, on a déménagé sur Paris. Voilà, on a quitté la maison où on était pour leur donner un cadre. Voilà, parce qu'il fallait s'éloigner géographiquement pour leur permettre de s'apaiser, d'aller bien. Mmh. Et au moment de quitter le cadre, on l'a quitté, hein, ça s'est bien passé. Ensuite, le papa a changé d'avis, a dit que c'était pas vrai, c'est ce qu'ont dit ses enfants. Voilà, ça n'a pas été
pour lui. Le papa dont vous étiez séparé ou dont vous n'étiez pas séparé?
Non, on est séparés, divorcés, mais on a cohabité pour l'intérêt des enfants par rapport à ce qui s'est passé.
D'accord.
Donc, entendez bien là-dessus, voilà.
Donc, ça n'était pas la guerre entre vous?
Pas du tout, au contraire. C'était comment faire pour que...
les enfants aillent mieux.
Voilà, et que ça, voilà, que ça les trouble pas plus. Voilà, que l'essentiel, c'était les enfants.
C'était les parents de votre mari, de votre ex-mari?
Oui.
D'accord. Oui. Donc, comment prenait-il ça, votre ex-mari, ces accusations par rapport à son père et à sa mère?
Dans un premier temps, il était du côté de ses enfants. Tant qu'il était du côté de ses enfants, ça s'est bien passé. Un jour, il apprend que sa mère est malade et là, il se retourne contre ses enfants, hélas.
Alors, il se retourne contre ses enfants, c'est-à-dire tout d'un coup, il ne croit plus en la parole de ses enfants?
Voilà, alors qu'il l'a écrite, hein, c'est-à-dire qu'il a pris, ma fille s'est confiée à lui, ma fille voulait que se confier à son père. Donc elle écrivait, elle lui a dit des choses, il les a écrites, ça veut dire que lui-même témoigne du recueil de la parole de ses enfants.
C'est-à-dire, préciser ce que vous voulez dire en fait, le recueil de la parole de vos enfants sur un carnet ou un...
Oui, voilà, oui, des écrits, oui, sur un cahier.
D'accord.
Au moment où elle se couche, elle lui parle à son papa et il écrit tout ce qu'elle lui dit, voilà, et on a... Voilà.
Vous êtes témoin de ça ou pas? Parce qu'il a pu écrire ce qu'il voulait.
Alors, à ce moment-là, pour ma fille, non, mais j'étais pas loin. Après, il l'a écrit et il me l'a dit, et je le crois. Voilà, c'est pas. C'était. Les enfants, en fait, jusqu'à aujourd'hui, ont toujours dit la même version. Ils
d'accord.
n'ont jamais.
Ils n'ont jamais, changé. Jamais changé, d'accord.
Non, aucunement, même séparés, même sans lien avec les parents, ça a été. C'est pas inventé. Ils sont deux, de toute façon. Il y a un garçon et une fille, donc c'est pas. Voilà, et tous les deux ont subi en même temps.
Bon, donc à partir du moment où ces rapports médico-légaux sont faits et où il y a une grande suspicion d'agression sexuelle, la justice s'en mêle vous...
Bien sûr, elle était là depuis le début, depuis l'hospitalisation, parce
d'accord.
qu'il y a eu un placement provisoire qui a fait beaucoup de mal aux enfants, voilà, où ça s'est arrêté. Hein, et c'était très violent, ils étaient très jeunes en fait. Et ça les a traumatisés déjà une première fois.
Vous m'étonnez.
Voilà. Et parce qu'ils n'ont rien compris, nous non plus d'ailleurs, parce qu'on ne pensait pas que le fait de dire des choses et d'accompagner tout ça et d'être du côté de l'enfant, ça engendrait tout de suite une séparation, une rupture brutale.
Une rupture brutale entre vous et vos enfants ?
Oui, c'est-à-dire que de l'hôpital, ils ne sont jamais rentrés. Ils ont été tout de suite placés dans un foyer d'urgence.
D'accord. Ça, je ne le savais pas. Vous ne me l'avez pas dit. Donc, en fait, ils ont été placés directement ?
Oui. Oui.
Mais pourquoi ?
Brigade en fait, mineure.
Pourquoi ?
Alors, c'est très simple. La police... on est tous interrogés séparément. La police a tout de suite mis une étiquette sur moi. Comme quoi je rendais mes enfants malades. Donc le syndrome de Munchausen.
De Munchausen, oui, c'est ça.
Oui. Donc j'ai fait aussi des expertises judiciaires qui ont démontré exactement le contraire. Et elles sont très élogieuses et elles disent bien que je suis une bonne mère et que je suis très inquiète par rapport à mes enfants et que je ne cherche à manipuler personne. Voilà, il n'y a rien du tout derrière. Voilà.
D'accord.
Ça a été. Quelque chose d'incompréhensible pour
oui.
moi.
On est là face à un premier grand mystère qu'on entend régulièrement sur cette antenne. Une interprétation, donc, de votre rôle de maman et de votre attitude. Bon, on va marquer une pause parce que l'info arrive et puis on se retrouve après, Sarah, d'accord ? Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, c'est votre libre antenne, comme tous les soirs, 7 jours sur 7, de 23h à 1h du matin. Chers amis, vous pouvez nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, et puis en lettres majuscules, ce mot nuit, suivi d'un espace. Et puis pour celles et ceux qui veulent nous écrire par mail, notre adresse mail est libreantenne@europe1.fr. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous écrire ce soir et à être choqués par le témoignage de Sarah. Ces deux enfants donc ont été placés. Vous êtes accusés donc de souffrir du syndrome de Munchausen. Voilà, exactement. Contre-expertise qui finalement casse cette appréciation, en tout cas ce jugement, Sarah.
Oui, exactement. J'en ai fait une avec le docteur Roland Coutenceau, qui est réputé voilà,
oui,
auprès
oui.
d'experts qui connaît bien ces sujets-là, justement. Et une autre avec un autre, voilà, mandaté une autre experte. Et par exemple, je vous lis un petit peu les conclusions, quoi, voilà. L'examen de madame ne met pas en évidence de pathologie manifeste. Madame présente des qualités de tolérance et amour envers ses enfants. Elle se présente comme une mère aimante et inquiète de la situation de ses deux enfants.
On y serait à moins quand même.
On serait
inquiet à moins, en fait, par rapport à cette situation.
C'est très élogieux. Justement, c'est tellement élogieux que c'est incompréhensible qu'aujourd'hui, on est dans... dans quelque chose de... Je vais vous raconter la suite et vous n'allez pas le croire tellement cette situation est choquante, elle est désastreuse, elle est destructrice et que c'est au vu et au su de tous les acteurs et qu'il n'y a aucune solution et que ça n'est pas grave et qu'on est dans l'extrême souffrance. Moi, j'appelle ça la torture psychologique de mes enfants. Quoi. Ils sont on les laisse souffrir pour rien.
Mmh. Vous avez parlé de vous, le père a été aussi évalué, je suppose, à la sortie de tout ça.
Non, pas du tout, parce que du coup, non.
Pourquoi?
Parce que il a une étiquette, il est de la famille, il est de la grande famille. Donc,
c'est-à-dire
de la police.
Votre ex-mari est policier?
Oui.
D'accord. Et donc lui, à ce titre, n'a pas du tout été évalué comme vous l'avez été?
Pas du tout, non. Et si vous voulez, je termine. Voilà, concernant ses compétences parentales, ce qui est le plus important, nous pouvons dire que madame se montre comme une mère affectueuse et aimante. Voilà, il n'y a rien en fait. Ils expliquent.
Pourquoi vous avez été évaluée et que votre mari n'a pas été? C'est vraiment parce qu'il est policier?
Alors, c'est parce que moi, en fait, ils avaient beaucoup de symptômes, donc j'ai toujours cherché à comprendre. Par exemple, il y avait des saignements anal, saignements vaginaux, des choses comme ça. Donc moi, à chaque fois, je consulte, je vais voir le médecin. C'est moi qui m'occupe des enfants, lui, il travaille. Donc moi aussi, je travaille. Mais vous savez, c'est souvent la maman qui fait les choses, parce qu'il a des horaires plus larges, voilà, il est en décalé. Donc, et le fait de chercher à comprendre, parce que il y avait bien quelque chose qui se passait, mais j'étais loin de m'imaginer que tout ça, ça existait et que c'était des proches qui agressaient les enfants derrière notre dos, quoi.
Oui.
Donc, du coup, le fait que j'ai trop investigué et que ça a peut-être perturbé, je ne sais pas, ou comme vous dites, c'est pour classer, je ne sais pas.
N'importe quelle mère aurait investigué et cherché à connaître la vérité. Enfin, paraît d'une évidence, il n'y a pas plus évident que ça, donc on marche encore sur la tête.
Exactement, c'est vraiment...
On marche sur la tête. Les grands-parents ont-ils été inquiétés suite à tout ça?
Il n'y a pas eu d'enquête.
Qu'est-ce qui se passe?
Mes enfants ont été entendus trois fois à la brigade des mineurs et le premier avocat qu'on avait, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas, pas en conflit, nous a, en tout cas, il n'était pas contre ses enfants, nous a dit que ce n'est ni à faire ni à refaire. En fait, l'audition des enfants a été un ramassis. Ça a été, il l'a dénoncé, il l'a porté plus haut. Si je retrouve le document, là, je vais vous expliquer exactement ces termes, mais ça a été, il était choqué et il l'a écrit. Ben voilà, c'est là. Alors, je suis le conseil, parent 2. Je vous confirme officiellement par la présente souhaiter déposer plainte. Et après, il explique « Je profite également de la présente. » C'est un dépôt de plainte qu'il faisait. « Pour vous faire part de mon indignation à l'égard des questionnements posés à ces enfants par la brigade des mineurs, pour avoir eu accès à certains PV. Des questions telles que « Pourquoi ils font ça? Tu avais fait une bêtise, par exemple ?» sont absolument ahurissantes. » Donc, c'est l'audition du 25.
C'est le père qui dit ça?
Non, c'est l'avocat qu'on avait, qui a
l'avocat.
Lu, au regard des faits d'agression sexuelle, voire de viol, dénoncés par ce jeune garçon.
D'accord.
Et il dit, je précise par ailleurs que la thèse du syndrome de Munchausen par procuration, attribuée très hâtivement à la mère, par une psychologue qui ne l'a jamais rencontrée, a été totalement battue en brèche par l'expertise psychiatrique ordonnée par la juge des enfants.
Alors, malgré tout ça, vous me dites que vos enfants ont été... placé illico. C'est l'ASE qui prend cette décision avec la justice, je suppose.
Alors, à partir du moment où le père dit que la parole de ses enfants n'est pas vraie, que la mère a tout inventé...
Ça, il le dit à qui? Il le dit à qui, ça? Et à partir de quand?
Il le dit une fois qu'on s'est séparés, en fait, qu'il a commencé à dire à ses enfants « Je vais vous jeter par la fenêtre, vous dites que vous avez menti à votre mère, que c'est pas vrai ». Enfin, voilà, quand il commençait à leur mettre de la pression, quand j'étais pas là, et en fait, j'ai dit stop, je cautionne pas cette violence, ça veut dire quoi? Laissons-les tranquilles, faut qu'ils oublient, faut qu'ils aillent mieux, faut qu'ils prennent leur petite vie d'enfant, quoi. Ça a été très difficile pour eux déjà d'avoir eu le courage de parler, parce que peu d'enfants arrivent à se libérer de ça, ça peut durer encore plus longtemps, et ils nous ont fait confiance, donc. On est là pour les protéger.
Mmh.
Et donc ça, c'était à la rentrée. Quoi, c'était juste un peu avant le placement, en fait. Mes enfants ont continué à parler, à dire à l'école, à faire des révélations à des personnes extérieures. Donc, il y a eu des signalements supplémentaires, parce qu'on les croit, en fait. La directrice de la nouvelle école, qui ne connaît pas l'histoire des enfants, a recueilli des témoignages, voilà, ils ont parlé. Et on a essayé de porter plainte. J'ai eu une fin de non-recevoir au commissariat. Je n'ai pas réussi, malgré l'accompagnement qu'il y avait. Et au final, le papa a dit que j'étais. Il a fini par dire que j'étais une mauvaise mère, et du coup, ça y est, ils ont été placés.
Bon, bah, il a gagné, lui, de toute façon, à partir du moment où. Et vous dites qu'il a, il s'est totalement retourné à partir du moment où sa mère est tombée malade.
Oui. Il a appris par sa sœur que sa mère avait un cancer.
Donc, si je résume bien, finalement, vos deux enfants ont été agressés. Tout ça a été reconnu, en tout cas évalué par des médecins et des spécialistes proches, enfin, qui sont des spécialistes pour la justice aussi, hein, puisque vous m'avez cité le nom d'un médecin qui est expert auprès du tribunal, me semble-t-il.
Oui, 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 il y a des preuves, il y a plein de preuves.
Mais
ça n'a pas été utilisé, exploité, parce que c'est parti sur c'est la mère qui est malade, quoi. Voilà, c'est...
Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, alors?
Alors, justement, je vous appelle aujourd'hui parce que c'est un appel au secours, en fait. Pour moi, c'est actuellement, les deux enfants hurlent. Et pleure sans arrêt. Donc, pour ma fille, on va commencer par elle. Elle qui adorait l'école, elle est déscolarisée depuis 4 mois. Plus de 4 mois. Elle ne sort plus de sa chambre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, même pas mettre un pied dehors pour aller dans un magasin, acheter quelque chose.
Quel âge est-elle aujourd'hui ?
Elle a 10 ans.
D'accord.
Elle ne mange plus sauf du liquide. Grosse perte de poids, fortement amaigrie. Et elle pleure pour voir sa maman et rentrer chez elle. Elle ne supporte plus, en fait, ça fait 3 ans voilà, qui sont passés. Et pour mon fils, depuis 3 semaines, il a subi une hospitalisation de rupture avec le foyer à l'hôpital cet été, parce qu'il ne pouvait plus ni apprendre, ni aller à l'école, voilà, ni avoir des soins. Et il prend un traitement depuis. Et là, ça fait 3 semaines à aujourd'hui, il a fait 8 fugues. La dernière, elle date d'aujourd'hui. D'ailleurs, à cette heure-ci où on se parle, je ne sais pas s'il est en sécurité, si la police l'a retrouvé. Et la seule réponse, c'est que depuis hier soir, ils l'ont déplacé, ils l'ont menacé, voilà, ils l'ont déplacé. Il est à plus de 200 km dans une famille d'accueil, je ne sais pas où, voilà, on ne précise pas. Et même dans un lieu qui lui est inconnu, qu'il ne connaît pas, voilà, il s'enfuit encore. Il veut rentrer chez lui, il le dit. La juge, moi, ce que je ne comprends pas,
Il vous appelle, vous avez des rapports avec lui ?
Alors, justement, j'ai oublié de préciser l'essentiel, c'est qu'en 3 ans, j'ai vu mes enfants 8 heures en tout et pour tout, et les 22 derniers mois, une seule heure. Et pas d'appel, pas de joyeux Noël, pas de cadeau d'anniversaire,
donc,
rien.
Donc,
lien.
Pour la justice, si je comprends bien, vous êtes toujours coupable aux yeux de la justice. En vous imposant ça, tout ce que vous venez de me dire, on vous accuse d'être une mauvaise mère. On continue.
Alors, pour moi, c'est incompréhensible. Parce
oui, c'est incompréhensible. Et pour moi, ça l'est aussi, Sarah. Je peux vous dire que... Et j'ai une...
L'affaire a été classée sans suite. Donc, du coup, j'ai perdu le droit... Pendant qu'ils sont placés au foyer, hein, j'ai perdu le droit de garde. Je n'ai plus le droit j'ai tout perdu, en fait.
D'accord.
Et là, le père a tous les droits et il ne demande pas à les sortir. Lui, il pourrait là tout de suite soulager ses enfants. Il est apte à les recevoir, il a une situation, il est très... Voilà, voilà, il n'y a rien qui l'empêche et il ne veut pas. Les services sociaux le savent. Et là, ma fille, elle se laisse mourir. Voilà. Et mon fils, c'est des passages à l'acte très, très dangereux. Il passe des heures dans la rue. Il s'exprime tous les deux comme ils peuvent en résistant, mais ils ne sont toujours pas écoutés. Et c'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, il y a une vraie notion de danger pour eux. Et je suis impuissante. Je ne peux même pas les aider, quoi. On ne me prévient pas quand ils fument, mon fils. Je ne le sais pas comme ça.
Non, on vous a viré. On vous a mis de côté, totalement.
Oui. La police est venue. Ils ont cassé ma porte. Ils m'ont arrêtée pendant que je ramenais...
Pourquoi ?
Parce que mon fils a aussi fugué avec une petite fille. Parce que le père a été dire que j'allais fuir avec mon fils et cette petite fille. Voilà, il a été, voilà, il a dit n'importe quoi, on l'a cru, comme d'habitude. Et du coup, ben, ils m'ont mis en garde à vue pendant 2 jours à la brigade des mineurs. Et ils m'ont relâché sans me dire où était ma voiture, parce qu'ils l'avaient prise, hein, ils l'avaient mise dans un autre endroit. Voilà, et du coup, je me retrouve avec des complications et pas de solution pour les enfants. C'est-à-dire que là, c'est trop. Je suis coopérative, je l'ai ramené 4 fois. Pourquoi je ne le ramènerai pas la 5e fois? Vous voyez, et en plus, il fugue avec d'autres enfants maintenant. Il est dans ce foyer, ils sont restés très longtemps avec des poux, il a des ongles très longs, ils sont sales. Quoi. Voilà,
ils sont dans des foyers ou dans des familles d'accueil?
Non, foyer, dans un foyer normal.
C'est votre histoire est totalement incroyable. Il y a un nombre d'auditeurs et d'auditrices qui écrivent au 739-21 que leur incompréhension devant cette histoire.
Et une juge qui reste sourde, qui n'a pas reçu les enfants à la dernière audience du mois de juin. Donc pour eux, là, ça a été le dérapage, en fait. C'est-à-dire qu'avant, elle les entendait, et là, elle ne les a pas convoqués.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, la parole des enfants a-t-elle été remise en... a été mise en doute, en fait. On ne croit pas qu'ils ont été agressés.
Alors, justement, ce qui est paradoxal, c'est que, comme vous dites, comme c'est classé aux yeux de la justice 3 fois sans suite, et que, bah, du coup, évidemment, on estime qu'ils ne sont pas vraiment victimes, ou qu'ils sont victimes, mais on ne sait pas de quoi, de qui. Donc, ils ne sont pas reconnus dans ce qui s'est passé dans leur corps.
Bah,
écoutez, en tout cas,
avec les rapports qui ont été faits médico-légal, ni la grand-mère ni le grand-père n'ont passé une minute à la police, me semble-t-il. Oui. C'est ce que vous m'avez dit. Il n'y a que vous, visiblement, qui êtes une mauvaise mère. Bon, cette histoire il y a un truc qui m'échappe totalement.
La justice a mandaté un centre spécialisé, le seul et unique qui existe à Paris, qui reçoit aussi bien les victimes que les agresseurs, et qui, eux, sont indépendants de la justice, qui ont reconnu, avec les dessins d'enfants, ils ont été quelques fois, ils sont OK pour dire que les enfants sont bien des enfants victimes d'agressions sexuelles et de torture, d'actes de torture, voilà, parce qu'on leur plongeait la tête dans le seau pour pas qu'ils parlent, etc. J'ai eu plein de témoignages de mes enfants, voilà, ça a été très loin. Et par contre, ils sont indépendants, donc ils ne rendent pas d'écrit. Et du coup, on est bloqué. Et en fait, ça n'avance pas. Et puis, de toute façon, on ne remet plus en cause. On va dire que c'est classé. Et grâce à ce classement ensuite, j'ai été destituée d'être mère. Je ne suis plus mère, leur mère. Vu que je portais leur parole et que j'étais la seule. Et qu'au final... Bah,
on vous a destituée de vos droits parentaux, en gros. Ça a été signifié, ça.
J'ai zéro droit. Depuis, je vous dis, en 3 ans, 8 heures, et depuis 22 mois, 1 heure, et aucun appel, rien du tout, et je n'ai pas le droit de les voir jusqu'à juin de l'année prochaine.
De votre point de vue, votre mari est à l'origine de ces manipulations, en tout cas de ces décisions?
Bah écoutez, moi j'en suis persuadée, après voilà, ça fonctionne en fait, mais on ne peut pas le dénoncer ça aujourd'hui. On va dire que... Le système lui permet, en fait, simplement. Voilà.
Beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices ne comprennent pas comment le père n'a pas été évalué, déjà, et comment les grands-parents ne se sont pas retrouvés en garde à vue. Beaucoup pensent que votre ex-mari a joué un rôle, de par le fait qu'il est policier, qu'il a bénéficié d'une bienveillance particulière, on va dire.
C'est toujours comme ça.
Et le grand-père était policier aussi.
Oui, voilà.
Bon.
Et ce qui est malheureux, c'est que sa sœur, s'est rappelée à l'âge adulte. Elle a témoigné à sa cousine et son mari qu'elle s'est rappelée, parce qu'elle a fait un travail avec une psychologue, qu'elle a subi des agressions de son père. Elle l'a témoigné il y a 10 ans. Et j'ai tout dénoncé. La grand-mère était assistante maternelle agréée dans sa ville. Ils ont gardé des jeunes enfants. Lui m'a décrit un petit garçon qui avait les mêmes symptômes après que mon fils. Sur le moment, je ne les ai pas connus. Moi, j'ai connu toute cette famille après. Mais je veux dire, il y a des enfants qui vont garder certainement que s'ils avaient fait une vraie enquête, ils auraient trouvé d'autres victimes.
Est-ce que vous vous êtes rapproché d'une association de parents victimes de placements abusifs comme ça?
Non, par contre, non. Association de parents victimes de placements abusifs, non.
Bon, il faudra que vous vous renseigniez. Il y a aujourd'hui des associations plusieurs parents se sont regroupés, s'estimant victimes de placements abusifs. Mais qui vous aide aujourd'hui? Qui vous accompagne dans cette épreuve?
J'ai une avocate qui va sortir d'ailleurs bientôt un livre sur des mamans, parce qu'elle soutient beaucoup les mamans, mais c'est tellement récurrent qu'il y a tellement de mamans, mais même si on saisit les médias, on ne se fait pas entendre. En fait, les juges se vengent après. C'est encore pire. Ils ont tellement de pouvoir que, par exemple, cette juge, on n'a personne au-dessus. J'ai fait tous les recours. Elle a fait des recours exceptionnels pour changement de situation, vous savez. Et à chaque fois, on est rejeté. Et là, aujourd'hui, je demande, moi, que les enfants, bah, comme ils demandent, eux, qu'ils rentrent chez leur père, je ne peux pas les avoir, j'ai fait appel, hein, mais ça prend 2 ans, oui. Pour le JAF, c'est 2 ans d'appel pour avoir une date. Et en attendant, on ne peut pas laisser ces enfants-là continuer à se mettre en danger et à souffrir, alors que c'est la double peine. Ils ont déjà souffert dans le passé, on devrait les soulager. Et là, tout le monde est au courant qu'ils sont déscolarisés, et qui font des passages à l'acte très dangereux, et ils répètent, et ils sont pas, il n'y a pas de réponse derrière. Et c'est moi qui, aujourd'hui, ai la police sur le dos, est embêtée, et qu'on continue à me salir pour rien. Et c'est surtout que moi, j'ai très peur maintenant pour mes enfants, parce qu'ils se défendent à leur manière tout seuls, et qu'on m'accuse encore d'avoir, vous voyez, alors que je n'ai pas de lien. C'est très embêtant. Il y a aussi un incident que mon fils a fait, qui est très grave. Ça, c'était le 18 mai. Et on me l'a caché, on ne me l'a même pas annoncé. Il a pris un couteau. Il voulait tuer une éducatrice. Et je vous dis ces mots, parce que ça, c'est dans le dossier du juge. Il dit, je veux te voir, maman. C'est trop dur. Quand est-ce que tu reviendras, maman? Tu nous as abandonnés, on ne te voit plus. Et il rajoute, j'ai peur qu'elle meure. C'est la rupture du lien, ce que ça donne.
Ah oui, bah vous m'étonnez.
C'est d'une violence. C'est horrible.
Personne
n'écoute. Il veut rentrer à la maison. Il dit qu'il veut rentrer à la maison, il n'arrête pas de le dire.
Et votre avocate, elle ne peut pas agir plus, en fait elle est,
Alors, mon avocate n'arrête pas d'écrire à la juge. Là, elle a des réponses toujours, quand elle veut bien répondre, c'est négatif, quoi. Donc on n'a rien. Nous, on a fait tous les recours, on n'a rien lâché. Vous voyez, ça se retourne contre moi. Ça veut dire que là, on va dire que c'est moi qui aurais dit à mon fils de fuguer, ce qui est impossible. Voilà. Il n'a pas de téléphone quand il part, il n'a pas d'argent, il est pieds nus. La première fois qu'il est parti, il a demandé à 10 personnes son chemin. Il s'est trompé d'adresse. C'est très difficile. Il est jeune. Il n'est pas habitué, on n'habitait pas tout le temps ici. Avant, on était en maison, voilà, il était en voiture. Ça fait peur, en fait.
Ah bah oui, ça fait peur, oui.
Et comment se fait-il que le système qui est censé protéger les enfants se retourne, en fait, contre eux, contre les enfants? La protection de l'enfant, c'est pas ça. C'est tout, n'est pas ça, quoi. Là, leur vie, elle est en train d'être gâchée. Et il va y avoir un drame bientôt. On ne peut pas tenir comme ça jusqu'au mois de juin. Alors, sachant que le père, les services sociaux m'ont dit clairement que le père n'est pas prêt à prendre ses enfants. Il ne veut pas.
Pourquoi? Quelle est sa situation au père? Il vit seul, où il a refait sa vie?
Oui, il est seul. Il est dans la maison où les enfants ont grandi.
D'accord. Et il ne veut pas accueillir ses enfants. Il préfère donc que ses enfants soient en foyer.
Voilà, il m'a dit à la justice, il a dit je ne veux pas récupérer les enfants tant qu'ils ne vont pas bien. Mais l'inconvénient, c'est que, ça c'était au mois de juin, mais aujourd'hui ils vont encore plus mal. Donc, et ils veulent rentrer, tous les deux, c'est ce qu'ils disent tout le temps, ils pleurent, ils le crient haut et fort.
Vous m'étonnez, entre chez eux et un foyer de la DAS, hein, en fait de l'ASE, je suppose qu'ils n'ont aucun repère depuis combien de temps maintenant? Depuis 4 ans?
Oui, oui.
Vous imaginez la pauvre... La vie de ces deux enfants, c'est...
On est en train de détruire leur vie.
Est-ce que la presse s'est occupée de votre histoire? Est-ce que vous avez alerté la presse? Est-ce que vous avez été entendu ou pas?
Non, non, non. Vous êtes vraiment... C'est vous. Moi, aujourd'hui, c'est vous que je contacte. C'est la première fois. Et il faut vraiment que ça ne perdure plus. Parce que le temps, vous savez, dans la rue, il est dans la rue. C'est un enfant qui n'a pas l'habitude d'être dehors. Et il s'est même blessé, hein, il s'est tordu la cheville.
Même, écoutez, c'est dramatique là, maintenant, mais depuis 4 ans, c'est dramatique. Vous m'avez tout dit, Sarah.
Oui.
Vous n'avez rien omis. Vous n'avez rien oublié. Bah, vous n'avez rien oublié d'important, d'un détail important. Cette situation paraît tellement dégueulasse pour vos enfants que j'ai du mal à réaliser, et tous les auditeurs et toutes les auditrices ont du mal à réaliser comment une chose pareille peut arriver. Au-delà du fait que vous ayez été d'abord accusé d'avoir ce syndrome de Munchausen par procuration, qui est un, je le rappelle en plus, qui est un syndrome dont il est extrêmement compliqué d'établir la réalité, en tout cas la présence chez quelqu'un. Souvent, on accuse les mamans de ce syndrome. Il est extrêmement compliqué donc à évaluer et donc à prouver. Il est beaucoup plus facile, par contre, de prouver l'inverse, c'est-à-dire les rapports que vous avez eus et les évaluations que vous avez eues ensuite, faisant état que vous étiez une mère inquiète et que vous investiguiez pour savoir ce qui se passait et ce qui était arrivé à vos enfants.
Oui.
Tout ça, vous me l'avez lu tout à l'heure.
Oui.
Je ne veux pas croire qu'il y ait eu une manipulation parce que le père est policier, parce que le grand-père est policier. Il va vous falloir écrire à un juge, à un procureur pour expliquer tout ça.
Ça a été fait, tout est arrêté, en fait, tout est classé sans suite. Je n'ai plus de recours là.
Donc en gros, pour la justice, vous êtes une folle qui porte des accusations sans fondement.
Voilà, et aujourd'hui, la folle, comme vous dites, elle est à l'origine, alors qu'elle n'a pas vu ses enfants depuis 22 mois, elle est à l'origine des fugues de son fils. Là, dans les rapports, ils sont en train de dire que c'est moi le problème, à nouveau. Mon avocate a consulté le dossier, et tout est mis sur la mère, elle dit à son enfant de fuguer, ce qui est aberrant, en sachant que je n'ai pas de lien, il n'a pas de téléphone, il n'a rien, et on ne peut pas se parler, on ne peut rien faire, et voilà, donc ça continue. Mais là, ils ont un papa qui peut les récupérer et lui, il me refuse. Il ne veut pas. Donc en fait, c'est moi, je suis prête à les accueillir tout de suite, même avec eux, même s'ils vont très très mal et tout, et je suis là. Et j'ai une situation, je suis fonctionnaire, je travaille depuis 18 ans dans un ministère. Et voilà, il n'y a rien qui ne va pas chez moi. Ils ont tout. Ils avaient la belle vie. Je suis le cadre sécurisé. Voilà, je suis protectrice. Et aujourd'hui, ça se retourne contre les parents protecteurs. Et voilà. Et après, ça fait des placements abusifs qui va durer 3 ans et demi. Mais on peut pas arriver aux 3 ans et demi vu l'état des enfants. Et si, là, ils vont les séparer. Ils ont l'intention de les séparer et de les mettre le plus loin possible de l'un de l'autre. Donc, c'est encore plus dramatique. Et tout le monde vous dit, c'est la juge. Pour enfants, c'est elle qui décide, on ne peut rien faire autrement. Et mon avocate, elle lui a écrit sans arrêt et elle ne veut même pas recevoir, entendre les enfants.
Elle ne veut pas entendre les enfants.
Bah, elle ne l'a pas fait la dernière fois. Là, mon fils, il a écrit une lettre que j'ai envoyée et pour le moment, elle estime qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il ne faut pas les recevoir. Et donc, ça s'aggrave en fait. Il va y avoir un drame en fait dans ce dossier. Je ne sais pas d'où il va venir, mais les deux sont dans un état de détresse, d'abandon,
Oui.
Voilà. Et je suis impuissante. Je fais tout ce que je peux et ça se retourne de plus en plus contre moi. C'est-à-dire au point où on m'a coupé la tête. Je n'ai plus aucun droit. Donc alors, à partir de là, la police ne me prévient même pas quand elle fugue. Je ne suis pas au courant. Et ma fille, j'ai écrit au rectorat, tout ça. J'ai pas de certificat médical comme quoi ils l'ont même pas envoyée chez un médecin. Elle va pas à l'école, mais elle reste enfermée et elle n'est pas vue. Elle consulte pas. Elle n'est pas hospitalisée. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous voyez, du jour au lendemain.
C'est-à-dire qu'en gros, elle est dépendante.
Et le foyer
est responsable d'elle. Hein, le foyer est responsable d'elle.
Alors non, justement, le foyer, quand j'ai ramené mon fils pour ses fugues, ils m'ont dit, c'est à cause de vous, madame, que votre fille, elle ne veut plus sortir, alors que je ne l'ai pas vue depuis 22 mois. On me dit, elle a peur de vous, c'est à cause de vous. C'est impossible, ils inventent des mensonges. Mais je ne peux pas comprendre. j'ai toujours été le bouc émissaire dans ce dossier, jusqu'à maintenant. Et ça nuit à ces enfants-là. C'est-à-dire qu'ils ont un père et une mère. Moi, je dis qu'ils aillent chez leur père dans ces cas-là. Voilà, j'ai, au contraire, j'ai appuyé déjà. J'ai aucun droit. La juge, elle a le droit de choisir entre papa ou maman, mais qui rentre chez eux. Et je l'ai hurlé. Et là, aujourd'hui, je réclame même plus des droits d'élite. Je veux juste que ça s'arrête, leur souffrance, qu'ils aillent bien.
Oui, je comprends.
Et qu'ils soient là où ils peuvent être au mieux, dans leur intérêt à eux.
Alors,
et
beaucoup...
c'est pas dans un foyer, ni dans une famille d'accueil, c'est chez leur père, pour l'instant. Parce que moi, le temps...
Les auditeurs et les auditrices de la Libre Antenne qui nous écrivent au 739-21 se demande pourquoi votre avocate n'a pas pris part à ce témoignage ce soir. Et je précise que votre avocate nous a précisé qu'en si peu de temps, elle ne voulait pas intervenir car elle avait besoin pour cette histoire de temps et qu'elle redoutait, bien évidemment, vu l'énormité de cette affaire dont elle va parler dans ce livre à sortir dans 4 mois. Me semble-t-il. Hein,
oui.
C'est ça, hein, Florian ?
Dans
4 mois, le livre sort. Elle a dit que toute cette histoire se retrouverait dans ce livre, mais que pour éviter qu'on mette en doute sa parole d'avocate, qu'elle n'avait pas assez de temps pour s'en expliquer, mais que, bien évidemment, quand le livre sortirait, elle assumerait tout ce que vous nous dites ce soir. Je le précise, hein, parce que des auditrices et des auditeurs se demandent pourquoi elle n'est pas intervenue. Mais parce que entre votre intervention, Sarah, et l'intervention de votre avocate, votre parole à l'une et à l'autre aurait été divisée en deux. Donc, elle a estimé que ce n'était pas jouable comme ça. Et qu'il valait mieux que vous interveniez seule. Ça ne remet pas votre parole en doute, hein, Sarah. Vous avez bien compris.
Oui, bien sûr.
D'accord ?
Oui.
Écoutez... On a bien saisi. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore.
Oui. Alors, mes enfants réclament juste l'amour de leurs parents. Voilà, ils ont deux parents en bonne santé qui peuvent les accueillir l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, la situation, elle est bloquée. Lui, le papa, ne veut pas les prendre tant qu'ils ne sont pas parfaitement bien, ce qui n'arrivera pas. Voilà, parce que c'est, là où ils sont, ça n'ira jamais. Et aujourd'hui, moi, je peux les accueillir, mais j'ai été totalement discréditée vu le dossier, vu les influences. Et je demande vraiment une aide. Voilà, je fais tout ce que je peux et je suis très inquiète que voilà, qu'ils sont abandonnés et personne ne veut solutionner. Et je fais tout. Cette avocate, elle a pas lutté. Elle fait beaucoup. Voilà, on fait tout le maximum et ça se retourne complètement contre ces enfants-là. Et ça, c'est pas juste. Et voilà, si quelqu'un peut m'aider, voilà, je veux bien toutes les aides possibles pour qu'on soit entendu et que ça s'arrête. C'est trop de souffrance pour eux.
Alors Florian, vous ne raccrocherez pas, car Florian a eu une auditrice au téléphone qui s'est permis de nous transmettre les coordonnées d'une association qui serait susceptible de pouvoir vous aider. Hein donc, vous ne raccrochez pas. Vous nous tiendrez au courant, bien évidemment. J'espère que des confrères et des consoeurs écoutent ce soir ou écouteront demain le podcast qui sera disponible à partir de midi sur le site d'Europe 1 et qu'ils auront la possibilité de... En tout cas, ils savent qu'ils peuvent prendre contact avec nous et que nous les mettrons en rapport avec vous afin qu'ils puissent enquêter sur cette histoire qui, si elle se révèle, comme vous nous l'avez raconté, Sarah, est un véritable scandale. Un véritable scandale pour...
Justement, mon avocate me dit que c'est le pire dossier qu'elle a et il traîne et puis s'aggrave avec le temps.
Oui, mais voilà. Il faut que la presse s'en mêle. On y a contribué ce soir. Vous noterez, chers amis qui nous écoutez, que de notre situation là, nous ne pouvons être que... Nous ne pouvons qu'assumer le rôle qui est le nôtre, c'est d'avoir écouté Sarah. Et j'espère que des consoeurs et des confrères se saisiront de cette affaire et recouperont, enquêteront. Parce que si ça s'avère comme vous nous l'avez raconté, Sarah, on a carrément piétiné la vie de vos enfants, la vôtre. Et ce qui est encore pire dans cette histoire, c'est que celle et celui qui ont agressé vos enfants n'ont jamais été inquiétés. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant pour nous tous. On vous souhaite une bonne soirée, en tout cas, pour peu qu'elle puisse être bonne. Et ne manquez pas de nous tenir au courant, Sarah, d'accord ?
Oui, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Je vous en prie. Merci à vous.
Ne raccrochez pas, Florian va vous communiquer l'association, d'accord ?
Oui.
Et surtout, vous nous rappelez, d'accord ?
Oui, je vous rappellerai.
Merci, Sarah. Au revoir. On accueille Lou, maintenant, au 39-21. Bonsoir, Lou.
Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Bah, écoutez, ça va, mais c'est un peu, après un tel témoignage,
oui.
C'est un peu dur.
Oui.
Je souhaite beaucoup de courage à Sarah et qu'elle conserve sa combativité, hein, parce qu'on sent quand même dans sa voix qu'elle est combative. Et voilà, je souhaite qu'elle trouve des solutions et si des auditeurs, enfin des gens peuvent lui venir en aide. Voilà, parce que c'est ahurissant. On a du mal à croire que
c'est
ça puisse arriver en France,
oui.
En 2022. Mm-hmm. C'est incroyable.
C'est incroyable,
alors,
vous avez raison.
Oui. Ah oui, c'est oui, moi j'ai du mal à y croire. Je me dis c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, je remets pas en cause le témoignage de Sarah, hein, mais je me dis c'est pas possible qu'il puisse passer des choses comme ça en France, quoi. C'est pas possible.
Pourtant,
alors moi j'appelle.
Pourtant,
oui, pardon.
Ben oui, non mais et pourtant, quand on écoute Sarah, c'est franchement dérangeant d'entendre ça.
C'est, oui, surtout deux enfants comme ça démunis, qui sont coupés de leur maman, qui peut même pas les soutenir, qui peut même pas les rassurer, ça fend le cœur, quoi.
Complètement. De quoi allez-vous nous parler, Lou ? Vous nous appelez d'où ?
Alors moi, je vous appelle des Hauts-de-France,
oui.
de l'Oise. J'ai 53 ans. Et en fait, je vous appelle par rapport au témoignage qu'il y a eu il y a une semaine, enfin, de Amidou. Amidou, un jeune homme.
Ah oui, je me souviens. Amidou,
voilà.
Amidou de Saint-Étienne.
De Saint-Étienne, qui
oui.
avait des gros problèmes de santé.
Oui, oui, oui.
Qui cumulait handicap, hein, était sur fauteuil roulant,
mm-hmm.
un cancer du côlon.
Oui.
Situation
dramatique.
Voilà, une
d'Amidou.
Situation dramatique. Menace d'expulsion, 4 enfants à charge, enfin bon, et ça m'a beaucoup émue. Et donc j'avais décidé de lancer une cagnotte en ligne sur la page Facebook de la Libre Antenne, et
oui.
je l'ai fait.
Oui.
Je l'ai fait mercredi dernier. J'avais d'abord demandé à Julia s'il y avait rien qui s'y opposait légalement.
Mm-hmm.
Elle m'a dit que tant que ça venait d'une personne, d'un particulier. Il n'y avait pas de problème.
Mmh.
Je suis en contact avec Amidou. Hein, j'ai eu son téléphone par Julia. Donc, je l'ai appelé. Je l'ai informé de ma démarche. Et je précise donc que c'est voilà, ni Europe 1, ni Amidou qui sont à l'origine de cette initiative. C'est
oui.
bien moi.
Oui.
Et alors, mon pseudo sur Facebook, c'est Missourida. Voilà. Et il y a eu des détracteurs qui se sont enflammés, qui ont crié au scandale, qui ont crié à l'arnaque et
alors,
qui ont un peu saboté cette initiative. Voilà.
Alors, il doit y avoir plusieurs oiseaux dans tous ces détracteurs.
Il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont été très virulents.
C'est-à-dire
ça a été des échanges entre eux et moi. Ils m'ont dit mais à qui va aller l'argent ? Donc j'ai dit je ferai un virement ou un mandat cash, enfin comme Mamidou le souhaite, pour qu'il puisse voilà subvenir aux besoins de sa famille. J'ai eu des mais oui. J'ai été critiquée sur le fait que j'ai intitulé les amis de la Libre Antenne parce qu'en fait moi ce que je voulais créer c'était un petit élan de solidarité.
Oui.
Et finalement je suis pas si mécontente parce que il y a eu 5 personnes qui m'ont rejoint et à 6, hein, en me comptant moi, on a quand même réussi à collecter 400 euros, ce qui est déjà
c'est
pas
super,
si mal.
Bravo.
Mais
bravo.
Voilà. Et en fait, moi, bon, je voulais pas parler de ces affreux oiseaux là.
Mais si,
je voulais
il faut en parler. J'en ai parlé
mais
la semaine dernière,
surtout.
Moi. Donc,
ah d'accord, j'avais pas, oui. D'accord.
Et j'ai eu le tort de me rendre sur cette page Facebook. Généralement, c'est Florian, Julia, ma belle-mère qui y vont. Et j'ai eu le tort de m'y rendre et voir des commentaires très virulents aussi, très insultants envers moi. Et donc, j'aurais pas dû. Uh-huh. Je connais le système, je connais le jeu. Et je sais que si vous y allez, vous confrontez à ça, vous allez obligatoirement ramasser quelque chose.
En fait, voilà. En fait, moi, sur moi, ça glisse. Ce qui me met vraiment en colère, c'est qu'ils ont vraiment jeté l'opprobre sur la démarche que j'ai faite, qui est honnête, qui est sincère, parce que j'ai été touchée par le témoignage d'Anidou. Et je sais que je n'étais pas la seule. Et je me suis dit, bah, comme je ne suis pas la seule, il y aura certainement des personnes qui voudront donner aussi, aider financièrement. Alors, je sais qu'il n'y a pas que l'aide financière, hein, mais comme moi, je ne suis pas du tout dans la même région que Amidou, je ne peux pas l'aider d'une autre façon. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai mis le couteau sous la gorge de personne. Je n'ai forcé personne à participer à cette cagnotte. C'est vraiment tout à fait libre. On peut vraiment participer du montant qu'on souhaite, hein, à partir de 1 euro. Enfin, il n'y a même pas de limite. Il n'y a même pas de montant minimum. On peut rester anonyme. Et puis, si on ne souhaite pas participer à cette cagnotte, mais pourquoi essayer de la dénigrer, de descendre cette initiative et pourquoi je crois qu'il y a des personnes qui en ont fait une affaire personnelle.
Oui, alors, pour appuyer vos propos et la véracité de vos propos et surtout l'honnêteté qui est la vôtre, ma chère Lou. On a eu une dame, nous, qui a versé 200 euros sur cette cagnotte.
Voilà.
Elle nous a appelé.
C'était la première qui a versé 200 euros.
Et elle les a versés anonymement, parce qu'elle ne voulait pas...
Tout à fait.
Voilà. Nous savons qui elle est, puisqu'elle s'est révélée
aussi,
à nous.
Je peux le savoir, en fait, par rapport...
Nous, ce soir, on peut vous dire qu'on la connaît, enfin, en tout cas, que c'est une auditrice de la Libre Antenne, et qu'elle veut continuer à garder l'anonymat, mais qu'on a pu vérifier vos dires et que c'est tout à fait, cette cagnotte est tout à fait honnête. Et je trouve vraiment dommage que vous la fermiez parce que c'est une bonne initiative.
Je vais la fermer vendredi parce que uniquement je souhaite donner de l'argent, le plus rapidement, je souhaite transférer l'argent qui a été donné par les participants le plus rapidement possible. Oui. Alors je ne sais pas si je peux donner de l'argent et laisser de la cagnotte ouverte, ça je ne sais pas encore. Mais oui, je peux la laisser ouverte aussi. Hein. Je peux peut-être transférer l'argent qu'il y a déjà dessus parce que moi je pense que Amidou en a besoin assez rapidement. Hein, parce qu'il est dans une situation... Ça m'a beaucoup touchée quand il a dit qu'il ne pouvait même pas donner les 20 euros de cotisation de début d'année pour sa fille. Là. Je ne sais pas si c'est pour la coopérative ou pour les assurances scolaires. Mais même 20 euros, il n'a pas pu les donner. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est qu'il a décidé d'arrêter la chimiothérapie pour essayer de se consacrer à sa famille. Hein. Donc moi, au téléphone, vous lui avez dit aussi, hein, je lui ai dit qu'il fallait surtout pas arrêter parce que pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et pour pouvoir se battre, il faut qu'il reste en vie. Hein. Donc ça, c'est le béaba, il faut qu'il continue à se soigner. Mais bon, je pense qu'il a tellement de problèmes, des menaces d'expulsion. Voilà, il doit avoir vraiment la tête grosse comme une citrouille avec tous les tracas. Et je comprends qu'il essaie de prioriser et de voilà. Donc s'il peut recevoir une aide pour parer aux dépenses les plus importantes, hein, parce que quand on est dans une telle situation, on fait le choix, hein, on fait le choix entre manger et payer son loyer. Donc c'est pour ça qu'il a certainement des arriérés de loyer impayés. Parce que quand on est dans une situation délicate, on peut pas tout faire. Donc, j'imagine quand on a des enfants, on choisit d'abord de les nourrir. Voilà, c'est humain, c'est logique. Il y a même des gens qui ont douté de la véracité de son témoignage. Et je lui ai dit de ne plus lire, hein, parce qu'il m'a dit qu'il avait lu justement sur la page.
Ah oui, c'est
Facebook.
L'enfer. C'est l'enfer.
Ah oui, je lui ai dit non, n'y allez pas. Parce que moi, comme je vous dis, c'est pas... Je veux dire, ils peuvent toujours... Je leur ai répondu parce que je voulais vraiment pas que des gens qui souhaitent donner se méfient. Donc, je me suis manifestée pour pas... Voilà, pour pas... pour dire que voilà, c'est une démarche honnête, c'est une démarche sincère et que enfin, je serais bien minable de vouloir me mettre 400 euros dans la poche sur le dos de...
Oui, voilà, oui c'est, comme
c'est,
vous dites.
Oui, ah oui, ouais, non, mais c'est... Mais bon, après, je peux comprendre qu'on se méfie, hein. Ça, je peux le comprendre. Il y a tellement d'arnaques sur Internet, sur Facebook, il y a des arnaques, ça, c'est vrai. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on s'acharne à essayer de démonter cette initiative. Ça, je ne peux pas le comprendre. Voilà. Donc voilà, je me suis dit, je vais intervenir ce soir pour dire que voilà, si des personnes souhaitent participer à cette cagnotte, l'argent sera remis à Amidou. Voilà, dès la fin de semaine, là, je vais faire un virement. Je ne sais pas si je pourrais toujours laisser la cagnotte ouverte, pourquoi pas. Voilà, je peux la laisser encore
si,
quelques
laissez-la
temps.
Ouverte. Amidou oui. a besoin hein, de cet argent.
Oui.
Quoi. Et le fait, le fait qu'on intervienne ce soir et qu'on en parle ensemble, ça va relancer cette cagnotte. Parce que, vu les échanges que vous avez eus avec ces charmantes personnes... eh bien, certains ont pu être freinés hein, par la véracité de cette cagnotte. Or, je peux vous assurer ce soir que cette cagnotte est tout à fait honnête. D'abord parce que Lou nous a donné assez de renseignements hors antenne pour que l'on sache qui elle est. Hein, et elle a vraiment montré patte blanche pour que vous le sachiez. Donc, on connaît son identité, on connaît son adresse. On l'a rappelé sur son numéro de fixe et sur son numéro portable. Donc, bon, à moins de monter une escroquerie du type international pour 400 euros, vous rendrez compte du côté un peu... Alors, vous avez le droit de vous méfier, mais ce qui me gêne dans ce que raconte Lou ce soir, c'est que vous paraissez, pour la plupart d'entre vous, ceux qui ont mis en doute l'honnêteté, avoir dépassé les limites de l'éducation. Puisque vous semblez avoir employé parfois des mots un peu hors contexte, allons le dire. Vous justifiez, vous confirmez, Lou.
Oui. Puis bon, moi, j'ai perdu un peu patience. Hein. Il y en a une, je l'ai traitée de pauvre tarte.
Oui.
Bon, c'est pas non
ça,
plus.
C'est pas bien.
Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Je regrette. Mais bon, il y a pire comme insulte. Comme insulte. Voilà. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que c'est Cotisup, hein, la plateforme sur laquelle j'ai fait la cagnotte.
Oui.
Et quand on fait une cagnotte en ligne comme ça, on doit envoyer sa pièce d'identité. Donc voilà, bon. Moi j'ai scanné ma pièce d'identité, je l'ai envoyée. Donc si quelqu'un a des doutes, ils peuvent appeler Cotisup, il y a mon identité, et puis de toute façon, j'étais en contact avec Amidou, et je pense que lui, même s'il ne souhaite pas repasser à l'antenne, pourra toujours témoigner auprès de Julia ou Florian qu'il a bien reçu l'argent. Voilà.
Bon, voilà.
Voilà. C'était une petite mise au point. Et puis pour ce titre, les amis de la libre antenne, voilà, en fait, je voulais fédérer un petit peu en me disant, voilà, tous les auditeurs de la libre antenne qui ont été touchés par le témoignage de...
Et ils ont été nombreux, ils ont été nombreux.
Oui, tout à fait. Après, je peux concevoir aussi qu'il y ait des gens qui préfèrent envoyer un don directement, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ou les gens qui sont dans la même région qui peuvent l'aider autrement. Mais bon, voilà, moi, j'ai pensé que c'était peut-être naïvement, hein, moi, dans le feu de l'action, je me suis dit, allez, waouh, je fais une cagnotte.
Mais
et,
non, mais c'est très
on va
bien.
Voir
mais
ce que
vous
ça
voyez
donne.
Aujourd'hui, voilà. Comme des initiatives comme celle-là, parce que bien évidemment qu'on ne monte pas une cagnotte comme ça et qu'on doit donner vraiment des garanties de bonne facture hein, et donc d'identité.
Et c'est normal.
Donc on ne monte pas une cagnotte comme ça. Aujourd'hui, tout le monde soupçonne tout le monde, en fait. Aujourd'hui, tout le monde remet en doute la parole de tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, bien évidemment, ça n'est pas tout le monde, mais vous voyez la virulence avec laquelle certains peuvent s'adresser à vous, en tout cas vous faire passer tout de suite pour quelqu'un de malhonnête, de mal intentionné.
Comme
vous dites, allez-vous faire de l'argent sur la situation d'Amidou.
Ah non, mais vraiment.
Il faut vraiment être un peu tordu, en fait, pour penser ça.
Tout à fait.
Pardonnez-moi, celles et ceux qui sont à l'origine de ces remarques par rapport à Lou. Je pense que vous devriez un peu réfléchir comme on vous disait peut-être petit, tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de la ramener. Parce que, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien dans le principe, ça n'est pas bien pour Amidou.
C'est surtout pour Amidou, parce que j'allais vous dire, moi, bon, c'est pas trop grave, mais finalement, ils font du tort à Amidou, parce que des gens qui auraient souhaité faire un don et qui ont hésité ou qui ne l'ont pas fait en se disant oui, c'est certainement une arnaque, bah, finalement, c'est Amidou qui est pénalisé. Parce que voilà, il aurait peut-être pu avoir plus d'argent sur la cagnotte. Et après, il n'y a aucune obligation. 400 euros, ce sera déjà pas mal pour Amidou. Alors, cette cagnotte, s'il y a des gens qui veulent, des auditeurs qui veulent participer, bah, on
écoutez,
la
moi, je vais participer demain. Vous allez me donner et puis je vais mettre des sous dessus. Hein, d'accord ? Déjà, donc, on l'a repartagé sur le groupe. Déjà, pour
oui.
Celles et ceux
donc
qui
voilà,
veulent donner.
C'est sur la page de la Libre Antenne.
Et moi,
et
dès demain,
sur
je
le... Voilà. Ah, bah c'est très aimable.
Bah oui, parce
merci
qu'en fait, je
ne
savais pas
lui.
Comment, vous savez. Et donc, ça m'arrange qu'il y ait une cagnotte, pour le
c'est
coup.
C'est par carte bleue.
Bah
alors,
oui,
il y a eu encore une autre, critique, c'est que j'ai dit qu'il n'y avait pas de commission. Alors, il n'y a pas de commission de la part de la plateforme Cotizot.
Oui.
En revanche, comme il y a les paiements pour faire un don, c'est un paiement par carte bleue de façon sécurisée. Il y a la banque qui prélève un tout petit peu, mais c'est vraiment minime.
Oui,
c'est 2,2%.
Oui.
Voilà. Et franchement, si ça dérange les gens, moi, je les prendrai à ma charge. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être critiquée pour ça. Ça fera quoi ? Ça fera quelques dizaines d'euros. Je les prendrai à ma charge. Voilà. Comme ça, les dons qui ont été faits iront intégralement à Amidou.
Bon, et je rappelle que la situation voilà. d'Amidou est des plus critiques. Hein, ce jeune père de
oui.
famille qui a 4 enfants à charge.
Il a 36 ans, il est très jeune.
Ouais, il est très jeune et il est vraiment dans une situation terrible parce qu'il a un cancer, me semble-t-il, de l'œsophage, je crois, ou...
Du côlon.
Colon, me dit
ouais.
Florian, ouais. Colon, et que il avait contracté une infection au cœur
ouais.
dont on ne connaît pas l'origine et qu'il a pu, hein, c'est une hypothèse, mais il a pu attraper cette infection à l'hôpital. On ne connaît pas ouais. l'origine, donc le malheur s'est quand même abattu sur cette famille et sur ce jeune père de famille, donc. L'initiative
oui,
que vous avez prise,
Lou,
elle est super. Enfin, bravo, bravo. Et encore une
mais
fois,
moi, voilà.
encore
oui.
une fois, je dis à celles et ceux qui ont remis en doute votre honnêteté, je leur dis, je ne vous jette pas la pierre, mais réfléchissez un peu avant de parler et d'écrire. Réfléchissez juste au fait qu'une cagnotte ne se monte pas comme ça. Il faut des coordonnées bancaires pour une cagnotte. Il faut... des papiers d'identité. Et Julia et Florian me précisent que nous n'avons pas le droit, nous, ici, d'être à l'origine de ce type de cagnotte.
Oui,
donc,
tout à
autrement,
fait. Et
croyez-moi,
c'est pour ça que j'avais demandé à Julia. Voilà,
croyez-moi, on
l'aurait elle m'avait dit
nous-mêmes.
Que si c'était un particulier, voilà, qu'il n'y avait pas de problème, mais que vous ne pouviez pas le faire.
Eh bien, écoutez, moi, je vous dis bravo et je vais donner des sous demain. Et puis,
c'est
je vous
très
engage.
Aimable. Merci pour Amidou.
Vous qui nous écoutez, je vous, voilà, 10 euros, 15 euros, 5 euros.
Il n'y a pas
chaque
de montant minimum.
Euro, chaque euro sera
5 euros,
bienvenu.
2 euros, c'est très très bien.
Voilà.
Voilà.
Merci mille
merci
fois.
Merci beaucoup
Lou.
Olivier.
On vous embrasse
merci.
Bien fort.
Au revoir.
Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre Libre Antenne. N'oubliez pas ce soir de bien respirer, de bien vous étendre, de penser à de belles choses avant de vous endormir. On se retrouve tout à l'heure puisqu'il est bientôt 1h du matin. On se réjouit de vous retrouver et comme vous le savez, 7 jours sur 7 de 23h à 1h du matin. Cette émission, c'est la vôtre. Alors dormez bien, faites de beaux rêves et à demain. Salut.